sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Voilà, I have a dream. C'est l'Amérique, vous qui êtes aux États-Unis ou partout dans le monde. Eric Manirakiza avec vous dans l'Amérique, vous. Ce soir, on parle de ces basketteurs africains qui réussissent outre l'Atlantique à la NBA. La finale 2019 de la NBA a débuté ce jeudi soir dans le premier match contre Golden State. L'ailier camerounais des Raptors, Pascal Siakam, a rejoint dans un club très fermé Shaquille O'Neal, Michael Jordan ou encore Kareem Abdul-Jabbar. Siakam est seulement le 7e joueur de l'histoire à marquer plus de 30 points avec une réussite au tir supérieure à 80% dans un match d'une finale NBA. Avec 32 points et un impressionnant 14 sur 17 au tir lors de la victoire de Toronto, je rappelle le score 118 à 109. C'est du jamais vu à ce stade de la compétition lors des 20 dernières saisons. Le record était jusque-là de 8 paniers consécutifs, co-détenus entre autres par LeBron James et Kobe Bryant. Siakam a réussi 11 tirs consécutifs. Et la saison NBA 2018-2019 compte 42 Africains. Pour en parler, j'ai en ligne trois invités. D'abord, aux États-Unis, l'ancien international centrafricain, champion d'Afrique de 1987. L'année suivante, il a participé aux Jeux Olympiques, c'était en 88. Il a été également directeur technique et coach de la Centrafrique actuellement. Il est président d'Africa Education Sport. C'est bien et bien Ejene Powah Telema. Ejene, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric.
Au Canada, le chroniqueur sportif pour la radio Choc FM à Toronto. Il couvre les Raptors. C'est aussi un ancien coach des Gazelles au Burundi, une équipe féminine. Patrick Vizindavi. Patrick, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci beaucoup.
Enfin, au-delà de l'Atlantique, précisément en Suède, un grand fan du basket, ancien joueur de Urunani au Burundi, Kennedy Munyankindi. Kennedy, bonsoir.
Bonsoir Eric, merci.
Je me rappelle que vous aimiez beaucoup installer, disons, ce qu'on appelait communément un local à votre domicile. À la veille des grands matchs.
Oui, exactement. Pour suivre les finales et les matchs NBA, oui.
Oui, voilà. Vous avez suivi même le générique de cette émission qui est introduit par Martin Luther King. I have a dream. J'ai un rêve. Vraiment, un Africain à la NBA, c'était un rêve devenu réalité. Une petite histoire, Kennedy.
Pardon, encore une fois.
Disons un peu d'historique, comment les Africains viennent à la NBA, les premiers,
oui.
Les précurseurs,
oui,
comme on dit.
Oui, c'est commencé avec les années 80, où on a commencé à détecter des joueurs africains qui venaient de partout en Afrique pour venir jouer en NBA. Et avant, c'était les Américains qui allaient les chercher. Et chercher des joueurs de grande taille comme le Soudanais Manot Paul ou le Congolais Dikembe Mutombo ou encore Hakim Olajuwon. Ils ont fait la gloire et représentaient très bien le basket africain. Et c'est venu par là, la passion est monté par là et les joueurs africains, les jeunes africains ont commencé à aimer le basket et à avoir envie de rêver et de devenir des grands joueurs en NBA.
Et jeune.
Oui, Eric.
Oui,
Je crois qu'il a bien prononcé trois principaux noms, même si le basketball, dans certains pays comme la République centrafricaine, était le sport roi. On nous appelait d'ailleurs les Américains d'Afrique. Et c'était le sport qui était le plus joué chez nous, même plus que le football, et c'est celui qui amenait les résultats. Et on avait déjà des jeunes qui avaient pu justement faire cette expérience de venir aux États-Unis, non pas seulement comme professionnels, mais à travers des universités. Et depuis des années, nous avons travaillé, d'ailleurs je fais partie de ces gens qui permettent à des jeunes de différents pays, dont par exemple Luc Mbamouté que je cite, que j'avais découvert en 2003 au Cameroun, et dont j'avais facilité la venue aux États-Unis ici dans un lycée, puis l'université de UCLA, il a été professionnel jusqu'à ce jour, il est professionnel. Donc le basketball africain devrait pouvoir être à ce niveau si nous étions mieux organisés. Donc
on va y arriver. Il y a d'autres personnes. On va y arriver, jeune. Patrick.
Oui,
vous avez été coach. Vous vous intéressez toujours au basket. À l'époque. Je vous regardais comment vous essayez de motiver vos joueurs et vous avez même gagné beaucoup de compétitions. Qu'est-ce qui vous inspirait à l'époque?
C'est vrai que ce que Kennedy vient de dire, la passion du basketball vient de... Ça fait 33 ans que la passion du basketball est en moi et puis... pour moi, c'est un honneur vraiment d'être dans cette émission avec Jeanne et Kennedy. Pour la petite histoire, chaque année, on se retrouvait chez Kennedy pour regarder les finales de la NBA pendant beaucoup d'années. Et pour la petite histoire, Jeanne, j'ai accompagné l'équipe nationale du Burundi pour les championnats d'Afrique de la zone 5, et c'était en Centrafrique, et j'ai vu l'engouement des Centrafricains par rapport au sport. Mais pour revenir à la passion du basketball, j'ai commencé à jouer à l'âge de 11 ans, et puis les joueurs que dans mon équipe, il y avait certains qui recevaient des matchs sur des cassettes VHS. Je sais que les gens de cette génération ne se rappellent même pas de ce que c'est une cassette VHS. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder les Michael Jordan, les Larry Bird, Magic Johnson. Et pendant longtemps, on était vraiment les passionnés du basketball. Et à l'époque, à Bujumbura, au Burundi, il y avait un centre culturel américain qui montrait des matchs en direct des fois ou des matchs qui étaient passés la veille. Et chaque fois, on y allait pour regarder le championnat universitaire. Et je dois dire que nous, au Burundi, bien sûr que le football est le sport roi au Burundi, mais on était vraiment une minorité à suivre le basketball. Et en 1992, quand la Dream Team est partie à Barcelone, c'est là où on a commencé à voir l'explosion du basketball dans beaucoup de pays. Et ça a fait que l'Afrique, le Burundi, les autres ont découvert le basketball. Ils ont découvert nos secrets à nous, ce qu'on a découvert avant que les autres ne puissent découvrir. Alors,
donc c'est le basket qui vous connecte avec l'Amérique.
Oui.
C'est le basket qui vous connecte avec l'Amérique. À l'époque.
Je dois dire ça parce que ça fait longtemps que je regarde la NBA. J'ai commencé à regarder les finales à NBA depuis 1991 avec les Chicago Bulls. Et depuis 91, je n'ai raté aucune finale. Et je dois dire merci à Kennedy parce que c'est lui qui m'a aidé à chaque fois voir les finales. Et c'est ça qui a fait que j'ai choisi Toronto comme ville d'adoption quand je suis venu au Canada parce que c'était la seule équipe qui avait une équipe de NBA au Canada.
Voilà, il y a une autre finale qui a commencé ce jeudi, la NBA qui a été toujours une compétition passionnante. Comme vous le disiez, en Afrique, c'était surtout dans le milieu intellectuel. Vous avez donc toujours regardé la finale de NBA, mais actuellement, l'intérêt est double, n'est-ce pas?
Oui, l'intérêt est multiple, je dois dire, parce que non seulement je vis à Toronto, donc l'équipe de Toronto est en finale, et dans l'équipe de Toronto, il y a beaucoup d'Africains. Je dois citer Siakam du Cameroun, Serge Ibaka de la République du Congo, Et le président Amasai Ujiri qui vient du Nigeria. Odi Aninobi qui est né en Angleterre, mais ses parents sont du Nigeria. Donc l'Afrique est bien représentée à Toronto. Et ça fait plaisir de pouvoir voir nos compatriotes africains, non seulement africains, mais aussi francophones, à pouvoir étaler leurs talents. Et on est vraiment tous fiers d'eux. Et puis Masai Ujiri, bien sûr, qui a mis l'équipe en place. Et c'est extraordinaire de ce qu'il a pu faire, même si les gens pensaient qu'il était fou, de pouvoir non seulement renvoyer le coach de l'année, renvoyer le meilleur joueur de l'histoire de la franchise pour avoir Kawhi, et maintenant ça
donne des résultats.
Il a cru à son instinct, et puis les Raptors sont en finale. Je dois dire que nous qui sommes ici à Toronto, on a une ville en ébullition. C'est quelque chose d'historique. Hier j'étais au match pour faire le reportage, mais je ne pouvais même pas parler à la personne qui était assise à côté de moi, parce que c'est tellement de bruit, les fans, c'est extraordinaire de vivre ça en direct, et puis de voir un rêve de 33 ans qui se réalise, et de pouvoir non seulement assister au final, mais parler aux joueurs, parler aux entraîneurs, c'est comme si je suis toujours dans le rêve, quoi.
Eugène ?
Oui ?
Oui, le premier match entre Toronto et Golden State, Golden State qui était pratiquement hypnotisé. Qu'est-ce qui a fait que Golden State échoue?
Je pense que Toronto, d'abord, premièrement, revenons à Toronto, qui est une équipe qui est très décidée à remporter ce titre. Et qui a fait des ajustements stratégiques de basketball.
Et qui n'a rien à perdre aussi.
Pas qu'ils n'avaient rien à perdre, mais ils ont le potentiel de gagner. Parce qu'en fait, on place tellement Golden State en haut qu'on oublie que d'abord, premièrement, Golden State n'est pas au complet, ils n'ont pas une meilleure rotation, ils n'ont pas assez de joueurs sur le banc qui puissent produire autant de points, par exemple, que les joueurs de Toronto. On a souvent l'habitude de négliger que Toronto a quand même été mieux classé pendant l'année que Golden State, que Toronto quand même a battu Milwaukee, qui était la meilleure équipe des États-Unis cette année, même si on ne compare pas la saison au play-off. C'est vrai, Golden State joue sa cinquième finale d'affilée, mais c'est une compétition, et je pense que c'est sur le plan stratégique que ça jouait. Je l'avais expliqué sur un média d'un de mes compatriotes, et j'expliquais que justement, Toronto avait tous les éléments nécessaires pour pouvoir contrecarrer le jeu de Golden State. Et je crois que l'une des premières choses qu'ils ont faites, c'est contrôler le véritable catalyseur de cette équipe, qui n'est pas Curry ni Klay Thompson, mais Draymond Green, qui est celui qui prend les rebonds défensifs, qui démarre la contre-attaque et lance la dynamique et fait toutes sortes de petits écrans et ainsi de suite pour permettre d'ouvrir, que ce soit Curry et Klay Thompson qui sont en parfait mouvement. À côté de cela, il faut aussi reconnaître quand même que Kawhi, c'est vrai qu'il jouait sur une jambe d'une certaine manière parce qu'il avait l'air blessé, a pu jouer avec Siakam qui a été monstrueux depuis le début de cette playoff et depuis toute la saison, et que les autres joueurs comme Van Vliet, même si Lowry n'a pas bien tourné sur le plan offensif, a pu gérer son équipe, un grand Marc Gasol qu'ils ont trouvé, et ils ont assuré leur rebond défensif qui leur a permis de faire des contre-attaques, marquer des paniers faciles, même si c'est vrai qu'ils ont raté quand même pas mal de lancers francs qui auraient pu leur coûter le match. Mais je pense que c'est une équipe, pour moi, je les ai en train de gagner le titre en 4-2. Je les avais mis 4-2. Donc,
Kennedy,
je pense qu'ils ont toutes leurs chances.
Kennedy ?
Oui.
Vous avez suivi le match de ce jeudi. On voit que l'Afrique a beaucoup à offrir à la NBA.
Et exactement, oui. Parce que si on regarde, en gros, là, il y a 108 étrangers en NBA, et puis on a 42 joueurs africains. Tu vois que c'est quand même beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont représentés. L'Afrique est bien représentée en NBA.
Il y a même un Rwandais qui joue à New York Knicks.
Il y a 15 joueurs en NBA, je pense. Et c'est, quand je dis étrangers, les Africains, je dis même les joueurs qui ont changé de nationalité, mais qui sont d'origine africaine. Et puis, en parlant du match d'hier soir, Toronto m'a surpris personnellement, mais je les avais suivis toute la saison, mais je ne les croyais pas arriver plus loin ou jouer un basket qu'ils ont joué aujourd'hui. Et ils ont tout changé à partir des deux premières défaites qu'ils ont subies face à Milwaukee. Ce n'était pas la même équipe. Après les deux défaites, on a vu une autre équipe. Ils ont fait des ajustements, comme l'a dit Eugène, en défense. Ils étouffent vraiment l'adversaire en défense. Et puis, il y a une autre chose qu'ils ont fait. Et Toronto, ils font des ajustements pour voir exactement où sont les points forts de l'adversaire pour le contrecarrer. Eugène l'a bien expliqué. Et le point fort de Golden State, c'est Draymond Green. C'est lui qui déclenche tout, mais en attaque, en défense, c'est lui vraiment le patron de cette équipe. Souvent les gens voient les joueurs qui marquent beaucoup de points, mais c'est en basket, il faut voir. Il y a beaucoup de petites choses qui se passent sur le terrain, et c'est déclenché par Green qui le fait aussi bien. Mais hier, vraiment, il a été contrecarré. Et c'est pourquoi Toronto a gagné le match.
Nous avons un auditeur en ligne, Kennedy. Je vais en venir vers vous. C'est Aruna Bardet. Aruna, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les joueurs de la Zone Afrique.
Ah oui.
Bonsoir.
Dites-nous, quel est l'impact que ces joueurs ont en Afrique?
Voilà, bon, bien sûr, par rapport au thème du jour, moi je dirais que le basketball aujourd'hui est devenu un sport populaire aux États-Unis, le plus suivi, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Par rapport à cela, où les joueurs africains, les basketteurs africains ont une très grande partition par rapport à ce sport-là, l'impact que les joueurs vraiment ont dans notre continent, l'Afrique. Aujourd'hui, moi, je vais prendre l'exemple de mon pays, le Sénégal, où
c'est
on
ça.
A un grand basketteur, Gorgui Siguien.
Oui, et c'est en 2017 que la Ligue du Nord a ouvert à Thiès, dans votre pays, sa première académie de basket sur le continent noir. Continuez.
Oui, première académie de basket, mais bon, au-delà de ça, il faut aussi que les autorités compétentes par rapport à cela vraiment facilitent le retour de ces joueurs-là pour vraiment qu'ils instaurent des infrastructures de basketball. Parce qu'aujourd'hui, le basket, c'est un sport en dehors de vainqueurs et de vainqueurs. C'est un sport social qui réunit les gens moins violents que le football. Bourgui Cizé, moi, j'aime citer son exemple. Lui, il revient pour construire des hôpitaux ici au Sénégal. On l'a vu dans sa localité à Kébemer. Il a construit un hôpital. Aujourd'hui, l'impact, elle est là. L'impact, il est là. Il est positif. Il est senti.
Il est visible. Juste... Merci, Aruna, pour votre contribution. Il y a Thomas Sankara qui dit, c'était plutôt Aruna. C'est Trésor qui dit que les États africains devraient soutenir le basket pour créer cet appétit en vue d'avoir beaucoup de talent. Et la NBA Afrique et l'Agence française de développement ont convenu la construction d'infrastructures de basket et le financement de programmes de développement dans 4 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal et le Maroc. Nous allons parler maintenant de la promotion du basket en Afrique. Il nous reste très peu de temps. Kennedy a parlé des joueurs étrangers qui jouent en NBA. Et je rappelle que la ville de Pretoria, en Afrique du Sud, a accueilli cette année la 3e édition du NBA Africa Game, comme on l'appelle. C'est un match de gala organisé par la Ligue américaine de basket. Et ce match de prestige oppose généralement la Team Africa. C'est l'équipe africaine composée par de basketteurs africains ou ayant des origines africaines qui évoluent à la NBA. Et la Team World, l'équipe mondiale, qui est une sélection composée de joueurs de NBA issus d'autres pays du monde. On aura une minute et demie pour chacun comment maintenant promouvoir le basket en Afrique? On commence par vous, Patrick.
Oui, Eric, je dois aussi préciser qu'il y a un effort considérable qui a été fait par Masai Ujiri, le président des Toronto Raptors, qui a une fondation qui s'appelle Giants of Africa. Donc lui, chaque année, il organise des camps pour les jeunes en Afrique. Il a commencé par un pays et maintenant il fait le Nigeria, il fait le Kenya, il fait le Rwanda, il fait l'Afrique du Sud. Et son rêve, c'est de faire des camps Giants of Africa dans tout le continent. Alors à partir de ces camps-là, qui sont des camps au début, c'est des camps de basketball, mais c'est devenu des camps de leadership. Et beaucoup de joueurs ont été découverts grâce à ces camps de Masai Ujiri qui organisent chaque été. Et une partie de son salaire de président de Raptors va à la fondation pour pouvoir amener l'équipement. Il fait des levées de fonds énormes au niveau de l'Amérique du Nord pour justement faire des camps à travers le continent. Il travaille aussi avec la NBA pour des camps à travers l'Afrique. Et ces camps ont pu découvrir Siakam, ils ont pu découvrir Joel Embiid, beaucoup de joueurs sénégalais ou autres ont été découverts grâce à ces camps-là. Et la NBA a annoncé récemment qu'elle va organiser une ligue africaine qui va commencer en 2020, dont plusieurs pays vont participer. Donc, il y a une expansion énorme au niveau de l'Afrique et c'est fait d'une façon consciente de la NBA. Parce qu'ils ont vu par le biais de Mutombo, de Hakim Olajuwon, Manut Bol et la nouvelle génération, Pascal Siakam, Joel Embiid et autres, qu'il y a du talent en Afrique. Donc là, ils vont capitaliser sur ce talent-là et investir dans les pays africains. Oui. Donc d'ici quelques années, on va voir une explosion énorme de basketball en Afrique
à cause de
cet investissement-là.
Oui, et jeune. Sans toutefois revenir sur ce que Patrick vient de dire. Oui, oui.
Disons que d'abord, premièrement, il faut d'abord changer la mentalité en Afrique. Il faudrait que les parents africains comprennent que le sport n'est pas une perte de temps. C'est un moyen de développement socio-économique. On peut gagner des millions. Par exemple, aux États-Unis, l'impact du sport est de 1 trillion de dollars. Donc, c'est des milliards de dollars qui se passent. Mais pour revenir au basketball et par rapport à la NBA, je connais très bien Masai, qui est un ami. Je connais très bien aussi Amadou Gallo, qui va justement être le directeur de cette ligue. Je pense qu'au-delà des camps, parce que le camp, ça forme que les joueurs. Je crois que le plus grand problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est les encadreurs. Et je pense qu'il faille qu'on fasse les dirigeants du basketball africain, donc FIBA, les fédérations, puissent s'entretenir avec la NBA pour faire comprendre que la formation des dirigeants, des managers, des techniciens, des médecins, des gens qui sont dans le marketing, dans les médias, les infrastructures, est très important. Sans entraîneur, il n'y a pas de joueur. On peut amener des Embiid et tout ça, ils vont jouer, ce sera seulement du public relations.
Merci, je pense que cet accord entre la NBA, Africa.
Il faut qu'on fasse un travail là-dessus.
Oui, je pense que cet accord entre la NBA Africa et l'Agence française de développement pourra apporter une grande contribution dans ce sens. Kennedy, je vais terminer avec vous. Il nous reste une minute.
Oui, moi je pense que pour le développement du basket en Afrique, c'est tout passe par la stabilité du continent. Si vous voyez bien, notre continent n'est pas stable, il y a des autorités pour que tout ça passe, le sport passe par là. S'il n'y a pas vraiment la stabilité, c'est trop difficile de développer le basket. Parce que sinon, les talents, il y en a. D'ailleurs, la NBA l'a bien compris. Et dès l'année 2020, ils vont commencer la Basket Africa League avec 12 équipes. Et c'est qu'ils ont vu qu'il y a du talent, mais tout passe par la stabilité en Afrique. Merci
Kennedy, merci Eugène, merci Patrick pour vos contributions dans l'Amérique et vous, le basket, la NBA et les Africains. Patrick, je vous souhaite surtout bonne chance.
Oui, merci beaucoup. Go Raptors.
Eugène, merci.
Merci et Eric. À bientôt.
Bon courage. Kennedy, merci. Bonsoir.
Bonsoir, merci Eric.
À la prochaine, excellente soirée chez vous. Bye bye.
Merci.